Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie qui vous rappelle que ben, si vous allez sur le site d'Eros et que vous utilisez le code promo HISTOIRE15, ben, vous aurez un joli rabais sur vos achats coquins. Evelyne Ferron, bonjour.
Gabrielle Caron, bonjour.
Je suis tellement excitée pour notre épisode d'aujourd'hui parce que ça rejoint un peu le dernier qu'on a fait avec les Borgia. C'est comme une belle continuité. Et on a beaucoup de volets, là. On a beaucoup de volets à aller toucher.
Oui, mais les gens aiment ce genre d'épisode où on se promène un petit peu. On fait plus d'un sujet, alors voilà.
Oui, c'est une thématique, plusieurs époques. Mm-hmm. Et là, je dis que ça rejoint un peu les Borgia parce que la semaine passée, on a parlé de César et de sa sœur et de son père, le pape et compagnie. Et là, on disait que Lucrèce, dans le fond, c'était comme l'empoisonneuse par excellence parce qu'on pouvait y donner, en fait, le rôle d'empoisonneuse. Même si on le sait pas tant, c'est à l'empoisonner du monde.
Voilà. C'est comme plus un titre qu'on va lui donner puis ça vend. Puis c'est là qu'on va voir que dans les empoisonnements, quand c'est des femmes, ça vient toujours un petit peu dévier la réalité. C'est plus difficile pour les historiens de s'y retrouver parce qu'automatiquement, c'est une femme. On crée presque d'emblée un personnage de sorcière à des époques où, ben là, on se dit « OK, ben c'est maléfique, elles sont possédées par le diable ou elles ont un lien avec le diable. » Là, arrive toute une histoire inventée finalement qui nous empêche de voir la réalité. Et c'est celle qui pogne auprès du public, toujours à notre époque. Parce qu'il faut comprendre une chose, on parle d'empoisonnement aujourd'hui. Pour les historiens, c'est probablement un des sujets les plus difficiles au niveau de la tâche, de comment s'y retrouver. Parce que si ce sont des poisons qui ne se détectent pas, déjà à l'époque, surtout si on remonte à l'Antiquité et tout, ils avaient une idée de à quoi peut ressembler quelqu'un qui mourait par empoisonnement, mais pas tant. Fait qu'on a juste des témoignages écrits. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de corps. Même si on exhumait un corps aujourd'hui, ce serait des squelettes. C'est pas sur un squelette que tu peux savoir, en fait, si quelqu'un est mort par empoisonnement. Ça prendrait un corps embaumé avec les organes intacts pour qu'avec l'avancée de la science d'aujourd'hui, on soit capable de dire « Ah oui, c'est quelqu'un qui a été empoisonné, mettons, à l'arsenic. » Puis encore là, c'est très difficile ça à identifier. Ça prendrait un corps encore dans son état presque
complet,
parfait, ouais. Au moment de la mort. Ou empoisonnement par champignons, des choses comme ça, ben ça prendrait le contenu de l'estomac pour être capable de l'identifier au-delà des signaux qu'on pourrait avoir sur la peau et tout ça. Mais je veux dire, ça prend un cadavre frais, là, tu sais, pour être très honnête. Là. Ce que nous n'avons pas pour nos personnages d'aujourd'hui, nos histoires d'empoisonnement. Et c'est ce qui fait qu'on se base sur des témoignages écrits qui, comme tu le soulignais avec Lucrèce Borgia, ben c'est ça, c'est que l'autre problème, c'est que souvent, si on parle de gens qui empoisonnent ou qui sont soupçonnés, en fait, d'avoir empoisonné des gens, ça reste juste de la rumeur. Fait comment on départage la rumeur de la réalité? Est-ce que les témoignages des décès, on peut s'y fier? Des fois, quand on a des rapports de médecins d'époque, ça devient plus intéressant ou c'est mieux documenté. Il y a un dossier sur lequel on va se pencher qui est très connu. Pourquoi il est très connu? Il est très bien documenté parce qu'il a été légal, il s'est retrouvé au cœur d'un procès. Donc, on va le dire, c'est l'affaire des poisons. De la cour de Louis XIV, de la chambre ardente qui entre là-dedans. Mais merci, chambre ardente, parce qu'on a des archives très détaillées où on voit justement le côté rumeur, mais aussi la réalité qui mène à ça. Mais ça, on n'a pas ça souvent. Alors, c'est là où je vais souvent te dire, ben ça, je le sais pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est ce qui rend ça fascinant, parce que c'est un peu toujours ça. C'est quand, un peu comme pour les Borgia, là où il y a des trous, ben l'imaginaire, voilà, la fascination pour l'histoire ou le côté plus macabre de la chose ben, peut se gâter à fond la caisse. Et dans les histoires de poison, des fois, c'est que des gens... Ça a été une crainte réelle très réel pour beaucoup de gens pendant plusieurs siècles, en Europe en particulier, en Chine aussi, où des fois...
De se faire empoisonner?
Oui, où on a des témoignages écrits, entre autres de Mozart, qui se demandait à la fin de sa vie s'il n'avait pas été empoisonné. On n'a aucun moyen de le prouver, hein? Puis d'ailleurs, la plupart des gens croient qu'il est mort soit d'une syphilis aggravée ou de quelque chose comme ça. Mais Mozart...
La syphilis revient vraiment souvent, honnêtement.
Écoute, ce sont des époques où les gens...
Protégez-vous, honnêtement.
Oui, mais c'est l'époque où le condom n'est pas encore...
Je le sais, mais...
On avait fait l'histoire du condom, je crois, mais tu sais, c'est pas encore l'époque où il est très en vogue, là.
Non, je le sais, mais c'est parce que si seulement, beaucoup de gens auraient évité beaucoup de souffrances et de morts précoces. C'est juste ça que
oui,
je veux
dire. Oui, horrible. Mais voilà. Tu vois, un Mozart, on va reparler dans quelles circonstances Mozart s'insère là-dedans, qui écrit, qui pense qu'il a peut-être été empoisonné. OK, tu peux bien être convaincu de ça, mais je veux dire, il peut y avoir plein de facteurs qui expliquent ton décès qui n'ont pas de lien avec le poison. Fait que, tu sais, pour les historiens, tu sais, croyez jamais quelqu'un, en fait, quand vous suivez des chaînes YouTube ou que vous écoutez des balados plus mystérieux. Et gardez un esprit critique, chers auditeurs et chères auditrices, quand on vous dit justement, ah, cette personne-là est morte empoisonnée. Assurez-vous dans un tel cas qu'on ait des documents légaux, de médecine légale, qui sont capables de le démontrer. Ce qui veut dire qu'avant le 20e siècle, doutez. Le doute raisonnable, ça veut dire peut-être que, plutôt que d'affirmer que c'est là où on se trouve, parce que c'est trop facile de dire que quelqu'un est mort par empoisonnement, quand dans les faits, on suspecte, mais on n'en a aucune
on
idée.
Sait pas.
Voilà, c'est assez délicat.
Puis moi, ce que je trouve fou avec les poisons, c'est qu'il y a comme un triangle, on dirait. Poison vient souvent avec sorcellerie, vient souvent avec femme. On dirait que les trois sont vraiment entremêlés, mais il y a une époque où on disait que, mais peut-être qu'on le dit encore, puis je suis juste pas au courant, là, mais que le poison est une arme de femme.
Oui. Parce que la femme étant vue comme étant plus faible, surtout qu'elle serait punie par l'État très sévèrement si, mettons, elle commettait l'homicide de tuer un mari violent ou des choses comme ça, ça marche pas, là. Même si tu souffres de nombreux abus, c'est pas toléré qu'une femme décide d'envoyer son mari vers l'au-delà. Alors, c'est sûr que c'est plus sournois. Ça peut être long. Et parce que comme la femme s'occupe de la nourriture, comme la femme s'occupe de tout ce qui est ménager, sert le mari souvent dans plusieurs ménages, ses boissons, etc. Et que certains poisons, comme l'arsenic, qui est le numéro un ici, ne se goûtent pas, ne se détectent pas, ben, y a pas moyen de le savoir. Ouh, Vladimir Poutine qui met du polonium dans du thé. Tu sais, je veux dire, les gens le savent pas. Voilà. Fait que, tu sais, c'est comme c'est plus sournois, ben effectivement, ça va avec cette espèce d'image qu'on a créée à partir du Moyen-Âge de la femme sorcière qui, étant tentée par le diable, va utiliser ben, une forme de magie noire. Parce que comme on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à l'analyser, à le détecter, ben c'est vu comme surnaturel, un petit peu.
OK, mais là, t'as ouvert toutes les portes qu'on voulait ouvrir. Donc,
oui,
on va foncer dans la première, qui est celle des champignons. T'as parlé de champignons? Raconte-nous l'histoire. Moi, je sais où est-ce qu'on s'en va, mais les auditeurs le savent pas, là, de qui on parle.
En fait, c'est là où histoire et science se rejoignent, et biologie aussi. C'est que, je veux dire... Des empoisonnements par champignons, il y en a encore beaucoup maintenant. T'sais, il y a beaucoup de gens qui aiment aller en forêt puis tu sais cueillir des champignons puis on leur livre puis tout ça puis des fois même si c'est un livre, ça se peut que tu te trompes et ça peut il faut vraiment que tu sois traité très très rapidement si tu consommes ceux qu'il ne faut pas. Parce que les champignons souvent ont des toxines qui ben tu sais je veux dire les symptômes sont vraiment très violents, on les connaît en fait ces symptômes là. Fait qu'on parle ici de l'amanite phalloïde que tu trouves partout dans les forêts d'Occident, très très facile à trouver et qui peut ressembler à d'autres champignons blancs comestibles. Alors, des fois, il y a des gens qui se trompent, puis ils se retrouvent à l'urgence, puis ça presse pour qu'on puisse les traiter, les sauver.
Ben, tu vois, moi, ça m'arrivera pas parce que les champignons, je trouve ça dégueulasse. Peu importe. Donc, vous ne m'empoisonnerez jamais avec des champignons.
Touche à du bois, il ne faut jamais dire jamais. sais pas où ils peuvent se retrouver, tes champignons. Des fois, si tu manges un petit bouillon asiatique, là, pis qu'il y en a qui flottent avec tes...
J'ai une tasse! Je suis comme un enfant, j'ai tasse. Je trouve ça dégueulasse. Bouilli, cuit, cru, des champignons, fait ça me dégueule.
Ceux, chez les végans, ceux qui remplacent le poulet par des champignons dans différents mythes, tu passes.
Je passe à 100%. J'aime mieux manger juste du pain qu'un sandwich avec du champignon au lieu d'un poulet.
Aucun champignon.
Zéro.
Même pas du shiitake ou des choses comme ça.
Okay. Non plus. Rien.
Oh non, non, j'ai perdu sa face, mesdames et messieurs, je vous confirme que le mot shiitake vient de créer une aversion. Bon, moi, j'adore les shiitake.
Donc, non, mais fait, on peut donc, aujourd'hui, on peut s'empoisonner avec des champignons si on fait pas attention.
Très facilement, puis ça, je te dirais que pendant la pandémie même, ça a été une grosse mode, là, tu sais, de pouvoir aller en forêt, sortir et tout ça, puis les gens, des fois, au lieu d'être avec des experts, parce que tu peux faire des sorties en forêt avec des spécialistes de mycologie, là, tu sais, des spécialistes des champignons. J'ai fait ça enfant avec ma tante, j'avais bien gros trippé, là, d'aller en forêt, cueillir des champignons avec des gens qui s'y connaissent, puis après ça, les manger, puis tout ça, c'est vraiment le fun. Mais faut se connaître. Puis des fois, ben, tu sais, tu peux faire des erreurs. Puis les années, les saisons variant, ben, tu sais, je veux dire, le nombre... Il y a eu beaucoup plus, au moment où nous enregistrons ce balado, l'été 2023 a été jusqu'à présent pluvieux. Et ben voilà, des fois, en forêt, ça fait que... Ouh! Il y a beaucoup de champignons un petit peu partout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comestibles. Et donc, la manette phalloïde, ben, elle est blanche, elle a un petit chapeau. Et ça, c'est super facile à couper en petits morceaux puis à mélanger avec d'autres choses. Tu sais, quand c'est blanc comme ça, tu peux même mélanger ça avec du poulet puis quelqu'un ne se rendrait pas nécessairement compte tout de suite que c'est un champignon. Il suffit d'en avoir mangé un peu et dans 16 heures, à peu près, tu es décédé. Là. Et c'était connu déjà dans l'Antiquité que certains champignons étaient toxiques et que d'autres ne l'étaient pas. Et on sait que l'empereur Claude était un amoureux des champignons, entre autres ce qu'on appelle les champignons, les bolets, là, tu sais, je veux dire, qui sont des petits champignons quand même assez ordinaires. C'est de là que dans beaucoup d'auteurs anciens, qu'on pense à Suétone, mais aussi, bon, Diodore de Sicile, il y a Tacite, il y a beaucoup d'auteurs romains qui vont aborder la mort de l'empereur Claude et ils sont tous unanimes. Claude semble bel et bien être décédé d'un empoisonnement aux champignons de par les symptômes qui sont décrits, qui sont pas mal les mêmes. Alors, c'est sûr que pour les historiens, on se dit que c'est tout à fait probable, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est une teintée de la légende du fait que, tu sais, son épouse Agrippine, ben, voulait Néron sur le trône et qu'elle s'est arrangée pour que Claude passe l'arme à gauche. Mais c'est sûr que de ce qu'on en sait... Claude, donc, aime beaucoup les champignons et un soir se fait servir, tu sais, on y va avec les témoignages de base, là, tu sais, il se fait servir en l'an 54 un beau plat de champignons mélangé à d'autres choses très probablement, mais c'est pas long qu'il y a des vomissements, des diarrhées, tu sais, c'est ça, on est dans les symptômes typiques de après l'ingestion, quelques temps après, ben là, ça va vraiment pas. Puis, tu sais, on parle au pluriel quand on dit vomissement et diarrhée. Ça veut dire que c'est un petit peu comme une gastro-entérite, là, c'est sans arrêt. Il y a un médecin qui essaye d'aider l'empereur même à vomir avec une plume. Là, il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que la plume elle-même était-elle empoisonnée? Donc, peut-être qu'on lui a juste donné des champignons pas bons, mais finalement, le poison est venu de la plume comme pour l'aider à vomir.
Il rentrait une plume dans la gorge pour le faire vomir.
Ouais, ça, c'est un des textes qu'il mentionne. Parce qu'on a quand même 10 sources sur 11, à peu près, là, qui décrit la mort de Néron, ce qui a toujours laissé la suspicion si vraiment un médecin fait ça, est-ce que la plume...
Non, de Claude.
Ouais, est-ce que la plume était empoisonnée d'arsenic. Et finalement, c'est l'arsenic qui l'aurait tué. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est assez trouble, on va dire, comme histoire. Mais c'est sûr qu'Agrippine, on le sait, veut vraiment voir Néron arriver sur le trône. Claude est quand même un des bons empereurs, soit dit en passant, de l'Empire romain. Claude est arrivé après Caligula.
Qui a fait... Déjà, la barre était pas super haute.
Ben, en fait, c'est qu'il y avait un sauvetage important à faire de l'Empire romain, surtout des caisses, les fonds publics. Claude, c'est l'oncle de Caligula. Donc, on est vraiment dans la lignée des Julio-Claudiens, la famille de Jules César. On voulait garder les empereurs dans cette lignée-là parce que, bon, c'était la lignée aussi d'Octave, le premier empereur. officiel. Mais Claude, bon, quand il arrive sur le trône, il est déjà un peu... il est âgé, c'est un triple d'histoire. C'est un historien, mais il est il y a des problèmes. Ce qui fait qu'il est moins sexy, moins populaire, peut-être qu'un jeune Néron en arrière. Mais il a fait une très bonne job au niveau de l'État. C'est quand même un super bon empereur qui meurt. Mais côté femme, vraiment, quel homme malchanceux. Sa première femme, ça a été une des plus grandes traînées de l'histoire romaine, de ce qu'on en sait, la Messaline.
Je connais mes traînées.
Oui, la Messaline. Oui, souvent quand on tombe dans ce sujet-là, c'est drôle, les noms. Gabriel les connaît.
Mais c'est parce que souvent, ils ont des histoires complètement fascinantes. Parce que c'est des femmes rebelles, des femmes assumées, des femmes qui refusent de s'enfermer dans le rôle de je suis la petite potiche à côté qui fait juste des bébés et c'est tout. T'sais, mais Saline, elle a essayé de renverser Claude un moment donné, non? De mettre son amant sur le trône et tout, puis ça n'a pas marché à la dernière minute. Oui, oui.
Mais c'est Agrippine qui semble avoir réussi finalement, la deuxième épouse qui, ben voilà, pour mettre Néron sur le trône, aurait... Et là, c'est là où l'histoire sombre de Néron qui apparaît à travers, parce que Néron arrive donc sur... Tu sais, va arriver sur le trône dans des circonstances où tout le monde est comme convaincu, en fait, qu'il a tué Claude et que, ben voilà, tu sais, il y a déjà comme une légende noire quand il va arriver, là. Et c'est que, bon, Agrippine, de ce qu'on en sait, elle était déjà dans des cercles de femmes un peu spéciales, entre autres des Gauloises. Là, ici, tu vois comment déjà dans l'époque romaine, les auteurs latins vont déjà attribuer à certaines femmes, et non pas des hommes, des talents justement de magie noire et d'empoisonnement. Donc, une Gauloise dans l'entourage d'Agrippine et de Néron qui semble avoir été une spécialiste des poisons. Et on suspecte que c'est elle qui a donc concocté le plat de champignons pour se débarrasser de Claude. Donc, déjà, l'image de... C'est pas la sorcière judéo-chrétienne, mais la magicienne, peut-être, qui est plus le thème qu'on va voir apparaître dans l'Antiquité, est là. Tu sais, une vieille femme gauloise, on n'aime pas les Gaulois chez les Romains, même si on a fait César a fait la conquête des Gaules, ils sont toujours teintés de quelque chose de très négatif.
C'est donc... de la bonne vieille propagande, là. C'est exactement ça.
Elle incarne déjà ce qu'on va voir comme archétype dans toutes les autres histoires de poison où des femmes sont impliquées. En fait, on a un dossier où il n'y a pas de femmes impliquées, c'est le dernier. Où là, c'est complètement différent. Mais tu sais, c'est quand même assez particulier de voir que ça... Déjà, on attribue l'empoisonnement, comme tu disais, aux femmes parce que c'est quelque chose de plus sournois, c'est la façon la plus douce de se débarrasser de quelqu'un sans être incriminé. Bon, mais c'est déjà là. Donc, tu sais, l'Église catholique n'invente rien, en fait. Déjà, l'idée de la femme magicienne, c'est déjà très présent dans l'Antiquité. Fait que c'est sûr que ça marque l'imaginaire et le décès de Claude et, bon, le règne de Néron vont beaucoup dans l'historiographie teintée de cette espèce d'aura d'assassinat puis de manipulation, alors qu'on a revisité beaucoup Néron dans les dernières années pour réaliser que c'était pas un si mauvais empereur que ça du tout.
Il a pas tué sa mère, il a pas tué Agrippine.
Il s'est arrangé pour de ce qu'on en sait, c'est ça. Là, t'sais, on est dans la rumeur, même si c'est plein d'auteurs qui en parlent, on manque de preuves concrètes. T'sais, des fois, c'est facile à dire, surtout si déjà t'es parti avec l'idée que c'est le méchant. Ben là, tu vas tout lui mettre sur le dos aussi. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé à Néron. C'est que là, d'emblée, comme il arrive sur le trône après un empoisonnement avéré, du moins par les auteurs de l'Antiquité, la plupart des gens, il commence son règne un petit peu mal parti, c'est ça, du point de vue de l'opinion publique. Et ça le poursuit jusqu'à l'incendie de Rome, où là, peu longtemps après, on va dire, écoute, ou on t'assassine parce que tu peux pas vivre jusqu'à la fin de tes jours et rester empereur, ou tu te... suicide avec honneur, ce qu'il choisit finalement. En fait, c'est son serviteur qui va l'achever. Mais c'est un suicide politique, Néron, à la fin. Mais il va beaucoup être affecté, je dirais, par cette espèce de rumeur qui va le suivre jusqu'à la fin. Et comme je disais récemment, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire romaine, ça vaut la peine pour l'empereur Néron en particulier d'acheter ou d'emprunter des livres très, très récents. Je vous dirais, à partir de 2016 à peu près jusqu'à aujourd'hui, vous allez avoir un portrait de Néron beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intéressant que tout livre qui est paru avant. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour pas le réhabiliter, mais c'est ce que ça a fait finalement, mais pour essayer de le comprendre au-delà de cette espèce de rumeur qui planait au-dessus de lui, associée à sa mère, à l'empoisonnement, etc., et à tout ce qui était un peu la magie noire qui nuisait à l'histoire. Parce que c'est ça que ça fait.
Tu parlais du suicide politique de Néron, mais il y a un autre suicide qu'on voulait aborder par le poison, la fameuse mort de Socrate avec la ciguë.
Oui. Ça aussi. Ben oui, c'est vrai, d'après les sources qu'on en a, mais encore là, on n'a pas le corps de Socrate, on peut pas confirmer si c'est vraiment de ça qu'il est mort en 399 avant notre ère, parce que, ben tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a, c'est des témoignages écrits. Mais effectivement, dans les empoisonnements célèbres, il arrive généralement numéro 1, parce que c'est un des premiers vraiment documentés où, ben voilà, parce qu'il est accusé d'avoir, comment dire, manipulé les pauvres esprits des jeunes Athéniens, entre autres. Je fais une histoire très très courte, Socrate. Donc, est comme condamné au suicide et boit la ciguë, qui est un autre poison qu'on utilise dans l'Antiquité, mais quand on va commencer à connaître l'arsenic, on va préférer l'arsenic qui est non seulement incolore, inodore, mais en plus, la mort est beaucoup plus douce. On suspecte d'ailleurs que c'est le poison utilisé par Cléopâtre pour mettre fin à ses jours. Donc, tu sais, c'est pas mal plus en douceur qu'un empoisonnement aux champignons. On s'entend, là, où là...
C'est moins violent, là.
C'est ça, c'est beaucoup moins violent et beaucoup plus difficile à détecter aussi. Donc, Socrate, qui semble avoir eu une mort quand même... on va dire des empoisonnements, des morts assez douces. D'ailleurs, dans les romans chinois de la Chine ancienne aussi, de différentes époques de la Chine, tu sais, oui, des fois, ils vont... On va avoir des espèces de mythes dans les romans chinois, là, de venin, de serpents ou des choses comme ça. Mais on va utiliser souvent des suicides politiques. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, les condamnés au suicide, les gens vont choisir de boire tout simplement ce qu'on appelle un vin de suicide. Donc, un poison, souvent de l'arsenic, dilué dans de l'alcool, puis on boit ça. Puis, si vous écoutez, vous aimez les vieux films chinois de Kung Fu et tout ça, des fois, vous allez voir ça passer. Ou si vous écoutez comme moi des Chinese dramas, il y en a beaucoup dans les intrigues de cours, mais ça faisait partie de certaines façons de faire aussi de ce côté-là. Donc, des suicides par empoisonnement parce que c'est plus noble, c'est moins douloureux que d'autres types de morts aussi. Donc, il y a le poison aussi, quand il est bien administré, on dit ça comme ça, cet avantage de tuer rapidement et sans trop de souffrance pour certains. Donc, voilà, tu sais, c'est pour ça qu'une femme qui vit un mauvais mariage peut décider d'y aller à petite dose et lentement, mais sûrement mener à la mort du mari. Et ça, on entre dans une autre catégorie qui va arriver Moyen-Âge et surtout l'époque de la Renaissance et l'époque moderne. Mais donc, la peur du poison, elle est là, elle est réelle. Dans l'Antiquité, on a quand même un petit peu peur de ça, surtout dans les hautes classes sociales où souvent on veut se débarrasser de certains ennemis. Et c'est une peur qui se transpose au Moyen-Âge. Dans l'Europe occidentale, dans les grandes monarchies où souvent, bon, les royaumes sont établis parce que, ben, ils ont l'appui de plusieurs nobles qui, parfois, voudraient bien le trône, que ce soit en Écosse, que ce soit en Angleterre, en France ou ailleurs. Donc, du poison arrive une pratique que vous faites aujourd'hui, souvent, et vous oubliez peut-être qui est associée au fait que vous voulez être sûr que la personne devant vous ne vous empoisonne pas. Donc, Gabrielle le sait, elle me fait le geste, alors je la laisse évoquer cette pratique médiévale.
Oui, mais c'est le geste de trinquer. Donc, trinquer, nous, on fait ça très à la légère, là. Chin, 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 santé tout le monde. On a donc ben du fun, buvons notre rosé. Mais à une certaine époque, le but, c'était de frapper les verres ensemble pour que le liquide de ton verre tombe dans celui de la personne avec qui tu trinques et vice-versa. Comme ça, ben, s'il essaye de t'empoisonner, il va mourir lui aussi. Comme voilà. Ça, tu vas pas mourir tout seul.
Santé, comme on dit, pour être sûr que les deux survivent, en fait, à l'ingestion de leur alcool.
Ça devait être tellement stressant. C'est comme une époque trop stressante. C'est trop stressant. Tout le monde essaye de t'empoisonner. Tout le monde veut prendre ta place. Tu peux être accusé de sorcellerie à tout moment. J'aurais pas pu vivre à cette époque-là.
Et pourtant, ces trinquages-là, c'est du côté des hommes. Ça nous montre quelque chose. C'est pour ça que je voulais que tu le soulignes quand même. C'est que autant nous, on ressort souvent les dossiers de femmes accusées de sorcellerie. C'est celles qui vont passer à l'histoire parce que il y a un côté romantique à ça. Là, la femme qui s'est usée des poisons, c'est super bon pour le cinéma, c'est super bon pour les romans historiques, etc. Mais il y avait autant d'hommes qui étaient très capables de faire des poisons. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, commence lentement, mais sûrement, à émerger le métier d'apothicaire, qui sont ceux qui parce que c'est de là que vient le mot poison. Ça vient du latin potionem, qui, en fait, potion. Une potion peut être un médicament. comme ça peut être aussi un poison mortel. C'est le dosage, en fait, qui devient la clé. Fait que plus on est... Et ça, la Chine avait beaucoup d'avance, soit dit en passant, la Chine et le Japon, sur, justement, l'étude des plantes, des produits, à part le mercure, vraiment, ça leur a échappé.
Hey, non, ça, ils l'ont échappé sur un moyen temps, là. On va se le dire, mais on en a parlé déjà.
Oui, avec l'empereur Qin Shi. Voilà, tu sais, à un moment donné, on commence à comprendre que certains produits à petite dose peuvent soigner, à trop grande dose peuvent tuer. Puis c'est encore ça un petit peu l'équilibre, même encore en pharmacie pour certains types de médicaments aussi. Tu sais, je veux dire, si tu prends des Tylenol à un dosage normal, ça va te soigner. Avale la bouteille avec une bouteille de vin, ben ciao bye. Tu sais, c'est quand même ça le principe. Donc, l'apothicaire, c'est un homme souvent. Lui, il est craint aussi au Moyen-Âge, dans l'Europe occidentale. Mais comme je dis, on va voir la même chose du côté de l'Asie, parce que ce sont des gens qui ont des connaissances qui inquiètent. Ils sont capables de soigner en mélangeant des plantes, mais ça veut dire qu'ils ont aussi le savoir de s'ils changent une plante dans une potion, dans une décoction, s'ils changent quelque chose ou s'ils jouent avec le dosage, ben ça pourrait devenir létal. Donc, ils sont là. Puis tu sais, je veux dire, le cinéma, des fois, va aller les chercher, ces apothicaires-là. Mais on aime mieux les voir souvent comme le gentil apothicaire qui peut sauver quelqu'un que comme celui qui pourrait être derrière la mort.
En général. Ouais, et là, on va entrer dans une histoire qui me fascine et que je connais beaucoup, 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 qui est la fameuse affaire des poisons à la cour de Louis XIV. Mais avant même l'affaire des poisons, ça n'a pas commencé avec la marquise de Brinvilliers. C'est pas elle qui est comme à la source de ça?
C'est elle qui démarre l'histoire. Oui, oui, oui. Toi, là, tu connais cette histoire-là et tu tripes là-dessus par intérêt pour l'histoire ou t'as lu un roman historique? Là, tu sais qu'il y en a.
Les deux.
Et t'as connais ça?
Les deux. Non, mais c'est un heureux mélange. J'ai lu un roman historique qui s'appelle La marquise de Brinvilliers, tout simplement. Et à partir de ça, qui a été écrit par une historienne, mais forcément qui a été romancée et tout, là, mais...
Ouais, parce qu'on la connaît pas tant que ça.
Mais c'est ça, puis à partir de là, j'ai été là, lire sur le sujet parce que ça m'intéressait. Fait que je le sais que comme n'importe quel roman historique, faut retrancher à peu près 80%, mais je sais que l'histoire de fond est là. Mais ce que j'aimais beaucoup de la marquise de Brinvilliers, c'est qu'elle était sans scrupules, sans remords. Là. Elle était comme, je veux la fortune familiale, j'ai des frères, j'ai un père, il me dérange, je vais tuer tout le monde. C'est d'ailleurs dans ce roman que j'ai appris que le poison, on appelait ça de la poudre de sucre. Succession.
Oui, bravo. Oui.
J'ai tout aimé de ça.
Poudre de succession. Tantôt on va parler aussi d'eau miraculeuse. Ce sont des termes qui peuvent être utilisés pour quand on écrit quelque chose qu'on se doute pas aussi que on entre dans l'univers des poisons. Mais c'est ça. On va comprendre à quel point. Ça peut être associé aux femmes, mais comment ça va teinter l'image des femmes? C'est sûr que comme c'est un des dossiers des poisons les mieux documentés, on remercie en fait l'époque de Louis XIV et ses archives pour nous aider à comprendre tout ça, mais à quel point le poison fait partie, comme tu disais, du quotidien de l'élite et que c'est une crainte qui existe. Et pour le règne de Louis XIV, c'est quelque chose de vraiment troublant, en fait. Et Louis XIV étant le monarque au-dessus qui veut s'assurer que tout soit bien géré, il prendra pas ça à la légère. Il aurait pu laisser aller ça, laisser se gérer ça à Paris, puis tu sais, pas s'en mêler. Louis XIV va intervenir parce que ce qu'il entend le trouble terriblement. Il faut dire qu'il a 41 ans, c'est un bout qui est sur le trône, il est bien assis. On est en 1679. Prenez votre voix des Cités d'or ou pour ceux, et moi, c'est le même narrateur qui écoutait les Dioscars là. Nous sommes en l'an 1679. Louis XIV a 41 ans. Alors qu'il est bien assis sur le trône, un scandale va ébranler la cour.
Parce que ça commence avec la marquise de Brinvilliers, puis elle, ce qui marque, en fait, c'est qu'elle est de la haute société. C'est pas une paysanne.
Oui, c'est une noble, tu le dis, c'est une marquise.
Exact. Fait que c'est elle qui a empoisonné plusieurs membres de sa famille sans se poser de questions. Toutes des gars, d'ailleurs. Hein, as-tu pas de madame? C'est vraiment ciblé, non? Je me trompe?
Oui. Comme tu le dis, c'est une marquise, marquise de Brinvilliers. Puis elle a une réputation vraiment très assise, là. Tu sais, je veux dire, elle est très connue à la cour. Puis c'est quelqu'un qui a une bonne réputation. C'est une femme avec qui on aime discuter dans les salons. On est en 1679. Il faut vraiment se remettre dans les salons à Versailles. Les gens jouent aux cartes, aiment jouer à des jeux d'esprit un petit peu, discuter, débattre. Elle est très, très bien vue. Et ça aurait pu ne jamais être connu, en fait, cette histoire-là. Parce que... comme tu dis, elle va se débarrasser du père, elle va se débarrasser de plusieurs personnes dans sa famille. Et en 1672, on a le premier décès. Là. Il y a un homme qui est retrouvé mort à son domicile. On dit que c'est une mort naturelle. Sauf que qu'est-ce qui commence déjà à répandre la rumeur qui va éventuellement énerver Louis XIV, c'est que quand cet homme-là décède, on trouve des fioles.
C'est ça que j'allais dire.
Et ce qu'on appelle... Voilà, puis qu'on trouve des fioles, puis une cassette avec des lettres de sa maîtresse. Et qui est la maîtresse?
Parce que c'est ça, c'est l'amant de la marquise de Brinvilliers. Donc, si cet amant-là n'avait rien écrit, n'avait pas laissé de trace, la marquise, aurait continué sa vie sans problème. Mais lui...
Et l'affaire des poisons n'aurait peut-être jamais eu lieu, mais il y aurait eu ô combien de décès!
C'est ça. Mais lui, il a comme ressenti le besoin d'écrire des lettres très accusatrices, là, on va se le dire. Elle pouvait pas s'en sortir, la pauvre madame. Elle pouvait pas.
Tu sais, le contenu, il dit « J'ai été empoisonnée à doses répétées avec de l'arsenic et le classique, la bave de crapaud. » Ça, c'est le mythe de la sorcière qui est attribué à Catherine de Médicis. En fait, c'est avec elle que ça commence, cette idée qu'elle se faisait empoisonner ses gants avec de la bave de crapaud, puis que quand elle serrait des mains, ben, elle empoisonnait les gens. Ça, on voit que, tu sais, on est vraiment dans l'imaginaire davantage avec la bave de crapaud, mais il l'écrit dans ses lettres. Il dit qu'elle a empoisonné son père, qu'elle a empoisonné ses deux frères pour, justement, avoir leur héritage. Et là, quand ça s'est découvert, on est quand même avant les procès, mais tu sais, il y a déjà quand même un peu d'inquiétude. Et là, le ministre Colbert qui va se mêler, parce que là, c'est dans la noblesse, donc c'est sûr que ça va se régler par l'État, là, tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est pas les polices régulières ou autres, c'est pas des paysans. Donc là, on a quelqu'un qui représente l'État, c'est une marquise. Là, on parle de décès de nobles, de gens qui servent aussi le roi. Alors, c'est sûr que là, ben les dossiers sont analysés à la et par les plus hautes instances. Donc, c'est Colbert, en fait, qui va dire « Amenez-moi le contenu, pas juste des lettres, mais je veux voir les fioles, puis je veux les faire analyser par un apothicaire, parce que là, ça m'inquiète. » Ah! Commence cette histoire!
qui... Le doigt dans l'engrenage, on va aller jusqu'au bout!
Parce que là, l'apothicaire analyse les fioles et il dit « Oh mon Dieu, c'est des poisons virulents qui laissent peu de traces dans l'organisme. » Bon, on suspecte de l'arsenic, la bave de crapaud, comme je te disais, c'est plus l'imaginaire de l'homme en question. Et là, on est un petit peu surpris parce que c'est la marquise de Brinvilliers. Elle est très connue dans les cercles sociaux. C'est une femme qui a une prestance, qui est appréciée. Et donc, elle est déjà citée à comparaître. Fait qu'en 1672, déjà, elle est supposée s'en aller devant la justice. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que si tu as lu son histoire, tu sais qu'elle, finalement, son procès...
Elle se sauve en Angleterre. Elle est pas folle, quand même. Elle sait bien que ça va mal finir, là.
Mais non, elle a comme compris qu'elle avait intérêt à s'en aller ailleurs, donc elle se sauve effectivement, elle s'en va en Angleterre, elle va aller genre en Hollande, elle va se retrouver même dans un couvent à Liège, et là, les gens la cherchent. C'est ça qui est drôle, c'est que là, t'as pas les réseaux sociaux pour la suivre, là, elle peut pas dire « Coucou, je suis rendue à tel endroit », mais les gens veulent savoir où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle passe, et que c'est sûr que déjà, elle crée le tout ce qui est idéal pour un roman. Parce que là, tu peux imaginer qu'elle se déguise. Tu peux imaginer que, tu sais, elle fait plein de choses pour réussir à passer entre les pays sans être reconnue. Fait que, tu sais, pour des romanciers, pour le cinéma, c'est un personnage... Cette histoire-là, ce début de l'histoire est assez fascinant. Et là, à un moment donné, on va demander au lieutenant général de la police. C'est, encore une fois, c'est les hauts niveaux, hein, de mener une enquête, d'essayer de la retrouver. Et on va réussir, finalement, à savoir là, qu'elle s'est rendue à Liège, qu'elle est dans un couvent. On va la condamner à mort, genre un an plus tard, mais elle n'est pas retrouvée encore. Il faut l'arrêter pour pouvoir la tuer. Puis on va la retrouver, genre, quelques années plus tard, en 1676, parce qu'il y a un agent de police qui s'est déguisé en prêtre. Fait que tu sais, on est vraiment...
Ah oui, c'est incroyable! C'est vraiment une histoire, comme tu dis, de film. C'est exactement ça.
Ça fait très vous trois mousquetaires. Alexandre Dumas, là, tout y est. Fait que imaginez, il y a un policier qui se déguise en prêtre pour avoir pas laissé comprendre qu'il fait partie, en fait, du bureau de la police de Louis XIV, pour réussir à l'identifier puis à la retrouver. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est juste fabuleux, là. Et c'est comme ça que, finalement, on réussit à l'arrêter. Elle va avoir un procès à Paris. Elle est ramenée à Paris et elle va toujours dire qu'elle est innocente. Elle a jamais rien fait. C'est des fausses accusations. Il n'y a pas beaucoup de preuves pour démontrer, outre les fioles analysées par un apothicaire, qu'encore là, ça ne veut pas dire que c'est elle qui a administré ça. Peut-être que son amant voulait la faire inculper puis avait ça. Il y avait quand même pas mal de flou autour, mais elle est quand même décapitée à l'épée parce que c'est une noble, donc elle n'est pas pendue. Puis en plus, parce que c'est un crime grave, elle a quand même tué son mari. Elle est décapitée, ça c'est la mort de l'État pour les nobles. Donc quand tu es jugé par la justice civile, si tu fais partie de la noblesse, tu sers par l'épée, tu meurs par l'épée. La guillotine n'est pas encore inventée. Elle n'est pas arrivée à ce moment-là. Si tu es quelqu'un du commun des mortels qui a fait un crime X, c'est la pendaison généralement. Donc l'épée étant, si le bourreau est bon, moins souffrant et plus rapide. Oui, c'est ça. Sauf quand tu manques ton coup.
Ouais, c'est ça, là. Il y a comme... C'est comme choisir entre la peste et le choléra, là.
Aïe, aïe, aïe. Et sinon, ben, c'est la pendaison qui, elle, aussi peut manquer son coup. Et c'est quand même plus violent. Et il y a la punition de l'Église. Et là, parce qu'elle a tué un amant, peut-être son père et tout ça, elle entre aussi dans un autre volet. Donc, non seulement elle est décapitée, mais on va la brûler sur le bûcher. Fait que, tu sais, on voulait s'assurer qu'il reste rien. Fait que c'était une façon de dire que c'était peut-être une sorcière. Elle a utilisé des poisons. Donc, on l'a jugée sur deux paliers, civil et religieux. Et donc, son corps a vraiment subi les deux...
La totale.
Et là, ça aurait pu se terminer, là.
Ben, c'est ça que j'allais dire, là. Mais non, ce n'est que le début. Parce qu'avec la marquise de Brinvilliers vient sa pusher, son fournisseur, ouais. La voisin.
Oui, Catherine Déhaie. De son vrai nom qu'on retient jamais.
Jamais, jamais.
Il a même fallu que je retourne. Je suis comme, ah, c'est quoi son nom déjà tantôt? Je suis comme, ah oui, Catherine D. Parce qu'on la retient surtout parce que on la surnommait la voisin parce que c'était la femme de mon voisin. C'est un nom de famille, soit dit en passant, à l'époque. Mais là, on s'en va. T'sais, bon, la marquise de Brinvilliers meurt en 1676. Ça, c'est fait. Sauf que ça ne fait pas taire les rumeurs. Où a-t-elle, comment a-t-elle mis la main sur ce poison-là? Ces fioles-là, elles existent. Les langues se délient un petit peu à Paris. Ça va atteindre Versailles, où là, on commence à comprendre que le poison est peut-être utilisé beaucoup plus pour faire disparaître des maris que ce qu'on pensait. Puis là, on commence à parler de poudre blanche. Et là, pourquoi ça devient le scandale que c'est qu'il y a un mot anonyme. Ça, c'est toujours chouette, hein, les mots anonymes pour le cinéma, pour les romans, tu sais, je veux dire, yeah, un mot anonyme qui fait allusion à un complot pour tuer le roi soleil avec une poudre blanche. Et on trouve ça dans une abbaye jésuite quelque part. Et là, ben, il y a une enquête, là, parce que là, on se dit, mon Dieu, ça menace Louis XIV directement. Il y a une femme qui est déjà arrêtée parce qu'elle est accusée d'avoir empoisonné son mari, qui est déjà en prison, qu'on va interroger parce qu'elle reçoit souvent de la visite d'une femme qui commence à ressortir aussi. Elle s'appelle Marie Boss. Ça commence à ressortir un petit peu là, dans les enquêtes. Et elle jase, elle. Elle parle.
Elle n'a plus rien à perdre, là.
Non, pas en tout. Fait que, tu sais, elle a dit qu'elle a empoisonné plein de membres de l'aristocratie parisienne. Tu sais, elle se vante de ça. Donc, tu doutes que c'est pas elle, vraiment, coupable. C'est l'idiote, en fait, qui veut bien, qui veut, tu sais, avoir l'air importante et qui finalement déclenche tout ce qui suit. Parce que là, elle va être emprisonnée pour ça. Elle va être soumise à la torture. Parce que là, Louis XIV, mais pas juste Louis XIV, le bureau de police, ça vise le roi. Alors là, c'est complètement un autre univers, là. Et donc, on va la torturer. Puis elle va dire aux policiers que, ben, c'est pas à elle qu'il faut s'adresser. C'est pas elle la responsable. C'est la voisine, donc, qui était déjà une femme un peu inquiétante à Paris, qui était soupçonnée de sorcellerie. Et là, ben, c'est facile. Comment? Elle devient aussi une bouc émissaire facile. Toute personne qui aurait pu être soupçonnée d'empoisonnement va dire « Oh non, c'est pas moi, c'est la voisine. » Tu sais, ils vont toutes envoyer de son bord.
C'est le bouc émissaire parfait.
Elle est parfaite. Elle est aussi un petit peu... elle s'en fout un petit peu. Elle est un personnage quand même dans les archives. Je sais pas comment tes romans historiques la présentent, parce qu'elle est un beau cas de roman historique, là. C'est
ben oui, mais elle a l'air très robuste, j'ai envie de dire, sûre d'elle. Puis moi, j'ai envie de dire une énergie masculine, tu sais. Elle s'en fout, elle s'en laisse pas imposer, elle dit ce qu'elle a à dire, puis les autres, basta, là, comme on s'en fout, là.
Ouais. Bingo!
Et... je pense que ça intimide aussi.
Ben, on est un peu surpris de ce type de femme, et elle est arrêtée avec de ses complices. Là, on s'en va... C'est là qu'on commence à entrer vraiment dans les interrogatoires, et là, ben, tu sais, c'est la chambre ardente, donc c'est vraiment le haut tribunal qui est chargé par Louis XIV de mener les enquêtes, de faire les interrogatoires, d'essayer de faire la lumière là-dessus. Parce que là, non seulement ça menaçait Louis XIV, mais ce qui dérange le roi, honnêtement, il y a eu d'autres complots pour peut-être l'assassiner, il n'est pas si inquiété que ça en général, mais ce qui commence à te déranger, c'est de voir qu'il y a peut-être plusieurs hommes de la noblesse, de l'aristocratie, qui sont morts supposément de mort naturelle, qui ont peut-être été assassinés au nom de l'héritage. Il a besoin de régler ce dossier-là, parce que sinon, si ça prend de l'ampleur, ça affaiblit l'État aussi, ça crée en fait de la suspicion, les gens les uns envers les autres. Il ne peut pas laisser ça aller, donc là, c'est le haut tribunal, c'est la chambre ardente, comme on l'appelle, qui se mêle du dossier, qui va mener les interrogatoires. Puis là, ils vont emmener là, pendant plusieurs années, là, écoute, je pense que c'est quelque chose comme plus de 400 accusés, hommes et femmes là-dedans, parce que la voisine va commencer à parler.
Elle tire partout, pour... là, c'est ça.
Oui, puis tu sais, elle va dire qu'elle a donné du poison à plein de monde, là. Pas juste des femmes. Et là, c'est ça, écoute, c'est quand même plus de 400 accusés. Il va y avoir plein d'arrestations. Là, les gens, pour s'en sortir, tu sais, c'est un petit peu comme Salem. Pour s'en sortir, on va souvent essayer de détourner ça vers quelqu'un d'autre, ou volontairement, on haït quelqu'un, on va le nommer. Et là, la machine à rumeurs part. Puis, tu sais, je veux dire, ces gens-là se retrouvent à procès, alors que des fois, la seule chose qu'ils ont fait, c'est peut-être regarder un petit peu trop avec des yeux aguichards le mari d'une dame, puis elle va se venger. Là, tu sais, on est un peu aussi, malheureusement, là-dedans. Mais c'est on n'est pas dans les tribunaux de Salem, on est dans un tribunal quand même un petit peu plus organisé pour essayer de faire la lumière là-dessus. Et bon, ben, tu sais, je veux dire, il y a quand même quelques personnes qui vont être accusées, mais tu sais, la plupart des hauts personnages de la Cour de France sont innocentés, parce que vraiment pas de preuves, c'est de la rumeur essentiellement, de gens qui veulent se venger ou détourner l'attention vers quelqu'un d'autre, mais reste qu'il y a eu des exils par contre. Louis XIV, tu sais, bon, j'ai pas assez de preuves pour vous condamner à mort, vous faites partie de la noblesse, mais je veux plus vous voir.
C'est aussi que le point culminant de l'affaire des poisons, c'est que oui, il y a des gens très haut placés qui ont été nommés, mais il y a aussi une maîtresse du roi qui a été nommée.
Il y a plusieurs rumeurs par rapport à ça.
Non, mais ça, c'est du gossip de premier ordre, là.
Oui. Mais c'est pas la maîtresse la plus connue de Louis XIV, par exemple. Ben, il y a la Montespan.
Ben oui, tu sais, voyons, la Montespan. Tout le monde sait c'est qui, là. Tout le monde est au courant. En plus, elle est pas comme en train de perdre sa faveur.
Un petit peu. Elle a quand même donné 7 enfants à Louis XIV, tu sais. Quand même sur la fin, parce que Louis XIV se tanne à un moment donné. T'sais. Puis il est à l'âge où il va commencer à s'assagir aussi, Louis XIV, à ce moment-là. Fait que, oui.
Mais c'est comme la dualité entre la Montespan puis la Maintenon, là. T'sais, c'est comme. C'est là, non?
Ben, c'est là qu'on commence à sentir que Louis XIV est à un changement dans sa vie aussi où les maîtresses ont moins d'importance. Il est peut-être sexuellement un peu moins.
Il était temps quand même, là. On se cachera pas qu'il y a eu un bon appétit.
Puis madame de maintenant, bon, tu sais, là, on est dans une autre histoire, mais tu sais, va vraiment essayer de ramener Louis XIV vers une vie plus pieuse, plus proche de son rôle de roi. On est un peu là-dedans. On voit quand même que Louis XIV est un vrai homme d'État, hein, tu sais, en disant, ben, tu sais, moi, je ferai pas gérer ça, là, par la bande. On va vraiment faire la lumière là-dessus. Tu sais, on va quand même faire l'essentiel. Oui, ça implique, entre autres, la Montespan, puis une autre de ses maîtresses un petit peu moins connue, dont le nom m'échappe, mais justement, elle est pratiquement pas connue. Le Louis XIV en a eu beaucoup des maîtresses quand même, mais on se le cachera pas. C'est sûr que la voisine, ben, tu sais, avait attaqué le cœur, tu sais, de l'État. Fait qu'elle dit, ah, la Montespan est venue me voir. Elle veut des poudres. Et là, c'est ça. Toi, t'as dit poudre de succession. Mais là, il y a d'autres termes qui vont commencer à apparaître dans ce procès-là qui ont marqué un peu l'imaginaire. C'est qu'on va leur donner plein de noms. Eau d'amour. Poudre aphrodisiaque.
Oui, pour garder la faveur aussi.
C'est ça. Et qui sont donc des potions qui ne devraient pas être des poisons, mais qui pourraient faire en sorte qu'on garde les faveurs, etc. Mais c'est vu comme de la sorcellerie, ça aussi, là, tu sais, je veux dire. Et ça va créer des fois de la confusion. Poudre de succession ou eau d'amour ou poudre aphrodisiaque, ben, y a des gens qui vont dire, mais c'est automatiquement du poison. C'est juste un autre terme pour dire, ben, lentement, mais sûrement, je vais tuer celui que j'aime, dont je veux la fortune, en fait. Fait que, tu sais, ça crée quand même tout un vocabulaire qui est en train d'entrer là-dedans. Ben, tu sais, la voisine, écoute, elle est brûlée vive, hein. Ça marque quand même l'imaginaire parce que c'est un bûcher quand même important, là. Froum, on la flambe vivante. La marquise de Brinvilliers, tu sais, je dirais, là, au moins... Elle a eu la tête coupée avant d'être brûlée, tu sais. La voisine, vraiment, c'est une sorcière. Par le feu, tu périras, retourne en enfer. Oui! On la brûle vive. Mais tu sais, c'est ça. Pour du roman, on est dans le fabuleux. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Mais c'est sûr qu'à partir de là, Louis XIV va demander un petit peu d'enquête sur ce que font les femmes aussi, entre autres de la noblesse en dehors de Versailles, où est-ce qu'elles vont. Puis là, ben, on va dire que, pas juste à Montespan, mais d'autres femmes de la noblesse vont même commander des messes noires, qu'on sacrifie des nourrissons, qu'on veut empoisonner le roi parce qu'il y a une nouvelle maîtresse. Marie-Angélique, voilà, tu vois, ça vient de me revenir. Marie-Angélique, mon Dieu, quel nom. Et c'est ça, là, tu sais, c'est sûr que ça... Même si la voisine est morte, ça va créer encore plus de rumeurs. Donc, tu sais, il faut continuer à faire des interrogatoires, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe,
Montespan. Un beau petit mot. Donc,
là, à un moment donné, Louis XIV dit, bon, on a fait la lumière sur le pire du dossier qui est la voisine. On va arrêter la chambre ardente. On va mettre fin à tout ça. Mais il y a quand même pas mal de gens, une trentaine de personnes, je pense, qui sont exécutées. Il y en a qui ont été envoyées, ce qu'on appelle aux galères, là, tu sais, ils vont aller ramer sur des navires ou des choses comme ça. Tu sais, c'est comme les envoyer quasiment une forme d'esclavage, là. Il y a surtout des exils, hein, Louis XIV, pour les dossiers les plus délicats, pour lesquels il n'y a pas assez de preuves, mais la rumeur est tellement forte, ces gens-là ne peuvent pas rester dans le royaume de France, ben, ils vont devoir quitter la France. C'est une façon douce, peut-être, de régler certains dossiers aussi, ou des gens qui sont plus proches de Louis XIV. Et à un moment donné, Louis XIV, bon, là, ça suffit, là, il a brûlé tout ce qui restait d'archives, de tout ça. T'sais, on n'a pas toutes les archives, mais on en a quand même pas mal, là. Mais il a fini par brûler les lettres qui restaient, puis dire, là, la rumeur, ça suffit, on a fait la lumière, et on vous a montré surtout une chose, si ça recommence, l'État va intervenir. Puis ça, c'est peut-être le message le plus important de l'affaire des poisons, je crois, là, du point de vue de l'histoire. On est à l'époque moderne, Louis XIV est associé quand même à ces monarchies modernes-là, où l'État va assumer son rôle de protéger la population, puis c'est un petit peu ce qu'il essaie de faire aussi avec ses
procès. Puis là, on a parlé vraiment d'un événement d'empoisonnement, je sais pas comment le nommer. J'avais le goût de dire festival, mais je trouvais que c'était pas le bon mot. Mais c'est vraiment... Je sais même pas comment le dire. Garde, Chuck, coupe ça, là, mais on a parlé... Non, mais c'est que on a parlé de l'affaire des poisons, où est-ce que ça a touché plein de monde. Puis oui, il y a la voisine qui était comme l'empoisonneuse principale, mais tout le monde passait des commandes autour.
Dont des hommes.
Là, on va s'en aller en Italie avec Giuliana, qui est une autre empoisonneuse.
Oui, et qui pour laquelle on a bien de la misère à comprendre l'histoire, parce que le peu d'archives qu'on a la place pas tout le temps à la même époque, ni dans les mêmes villes. Donc, elle est plus dans le mystère historique que dans l'avérée, mais son nom de famille va donner le nom à un poison qui est l'eau de Tofana ou l'aqua Tofana. Donc, elle s'appelle Giulia Tofana. Elle aurait vécu, selon certains témoignages, à Palerme, mais on a aussi des archives qui vont la situer à Rome. On a des archives qui vont la situer à Naples. Donc, oups, elle n'est pas toujours aux mêmes endroits. Des textes d'époque vont la situer plus au début du 17e siècle, d'autres vont la situer plus vers la fin, même au 18e. Les dates ne concordent pas non plus pour cette femme-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour les historiens, elle est un petit peu un bordel, là, pour être honnête. Mais elle aurait réussi à développer une eau. Probablement à base d'arsenic, c'est ce qu'on suspecte, mais on ne peut pas le prouver, qui était inodore, qui n'avait pas de goût non plus, qui pouvait se mélanger au thé, au vin, à plein de choses. Et elle vendait ça pour les femmes donc, qui étaient victimes. On dit bien le mot victime. Elle est beaucoup associée au fait qu'une femme victime d'un mari qui abusif et qui n'a pas, du point de vue de l'État, aucun droit pour s'en sortir. Elle est juste condamnée à un mauvais mariage, finalement, et aux abus. Ben, elle est comme devenue un peu la sauveuse, tu sais, la salvatrice et un mythe. Elle a peut-être existé, mais comme je te dis, malheureusement pour nous, elle n'est pas placée au même endroit, elle n'est pas placée aux mêmes époques. Fait que, tu sais, on a comme un peu des troubles. Mais Mozart, avant de mourir, dans sa dernière lettre, va dire: je crois que j'ai été empoisonnée à l'aqua Tofana. Donc, Mozart la connaît le nom de l'eau, en tout cas. Et on sent que là, c'est bien présent, on sait que ça existe. En fait, l'idée qu'on puisse recevoir ce genre de liquide et en mourir à petite dose. Parce que l'idée de l'aqua Tofana, c'est peut-être plus qu'une femme doit planifier son coup à l'avance puis y aller une petite dose au début, un peu plus la deuxième fois, pour que ça ait l'air d'une maladie sur le long terme et que les hommes décèdent sans souffrance, lentement, mais sûrement, ils sont malades, les médecins sont là, ils ont beau ausculter le corps, ils ne voient pas de traces du poison. C'est là aussi où ça vient toujours associer l'idée d'une arme de femme, c'est que c'est indétectable et ça peut durer longtemps. C'est comme si on torturait l'homme, en fait, pendant des fois 6 mois, 7 mois, presque 1 an. D'ailleurs, ça a été repris dans Outlander pour ceux qui ont lu le roman ou qui ont écouté la série. Là, il y a un personnage qui fait ça à son mari pendant une longue période jusqu'à temps qu'il trépasse. Alors, c'est un peu l'aqua Tofana. Et donc, cette Giulia Tofana, on la connaît pas, on sait pas. T'sais, il y a eu des rumeurs, mais je sais même si elle était mariée, on se doute que celle l'était, le mari y est passé.
Elle
n'a
pas resté longtemps.
Mais le mythe autour d'elle, c'est que vraiment son eau empoisonnée, elle la vendait aux femmes qui avaient vraiment besoin de se libérer de mariages abusifs. T'sais, c'est vraiment ça un petit peu ce qui... Fait qu'on sent que c'est peut-être une rumeur qui a été peut-être plus véhiculée par les femmes elles-mêmes cette fois-ci. T'sais, pour dire, ben, t'sais, on a une protection, il y a quelqu'un qui est là pour nous, qui a quelque chose pour nous si vraiment un mari n'est pas fin avec nous. Fait que c'était peut-être une façon de dire au mari: abusez pas trop, parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être passer l'arme à gauche puis vous saurez même pas que vous êtes empoisonné, puis ça va durer sur une longue période de temps. Alors qu'il y a plein de maladies, tu sais, à cette époque-là, surtout, que tu peux traîner pendant des années. Fait que c'est très difficile pour les médecins de pouvoir dire: ah, ben, je crois qu'il a été empoisonné. Parce que les symptômes sont généralement plus une fatigue, tu sais, des maux de tête. Mais tu sais, il n'y a pas de vomissement, il n'y a même pas de fièvre, de ce qu'on en sait. Fait que, tu sais, comme c'est un peu mystérieux, ben, c'est pour ça qu'un Mozart, qui est probablement mort de la syphilis ou d'autres choses, va se dire: ah, ben, c'est ça, c'est long, ça fait longtemps que je ne vais pas bien, j'ai été empoisonnée à l'aqua Tofana. Et voilà. C'est le mystère de Giulia Tofana qu'on n'arrivera peut-être jamais à élucider. Ça va prendre plus d'archives, honnêtement, là, pour vraiment la comprendre. Mais elle marque un peu l'imaginaire pour cette raison.
Et là, on a parlé d'empoisonnement qui touche toujours des femmes. Toujours, toujours, toujours des femmes d'impliquées de près ou de loin. Et là, on va parler de notre seul empoisonnement 100% masculin.
Il y en a d'autres, mais celui-là a marqué l'imaginaire, puis il est bien documenté, puis c'est surtout surréaliste.
Oui, j'ai tellement hâte qu'on en parle, mais on va parler de Rasputin.
Ben voilà, c'est lui. Alors, Grigori ou Rasputin? Bon, là, est-ce qu'on a besoin de le replacer un petit peu?
Ben, les derniers tsars, là, on peut se mettre...
Oui, ben, on est sous les Romanov, c'est un paysan sibérien, illettré, qui va comme une espèce de devenir une espèce de gourou, parce qu'il faut se rappeler que Alexandra, ben, en fait, le petit tsarevitch Alexei, qui va être le successeur de Nicolas, est thémophile, lui est capable, en fait, d'aider à calmer les crises d'hémophilie, souvent avec des... Il y a souvent des techniques qui semblent un petit peu ésotériques, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est un... Allez toujours voir les photos de Rasputin, c'est toujours
il
un peu impressionnant.
Il est dégueulasse. Il est
massif.
Oh, mon Dieu.
Ouais.
Il a l'air de
regard.
Puer. Il a l'air ouais. de puer. Il a l'air d'un illuminé. Dans ses ouais. yeux, tu le vois qu'il est pas tout là. Puis sa longue barbe. Oh, mon Dieu. C'est le genre de monsieur que tu croises dans le métro, tu retiens ton souffle, OK? 100% préjugé, là. J'ai 100% préjugé. Mais il a l'air de ça.
Il a l'air, puis tu sais, c'est sûr qu'en plus, il était très grand, hein, il était vraiment imposant, mais parce qu'il arrive à calmer les crises du petit tsarevitch, il va avoir une très, très grande influence sur l'impératrice, sur Alexandra, un peu sur Nicolas II aussi. Ça va beaucoup, beaucoup servir toute la propagande autour de Nicolas II, d'ailleurs, pour le faire tomber, parce que ça nuit beaucoup à sa réputation. Mais il y a beaucoup d'influence sur les décisions qui doivent être prises, et il commence à être très populaire au niveau de l'aristocratie russe. C'est pas juste chez les Romanov, là, tu sais, c'est partout. Et là, à un moment donné, on se dit non, il faut se débarrasser de cet homme-là. Il se mêle trop de la politique, il est dangereux. Au nom de la santé du petit tsarevitch, on oublie le rôle de l'État. Là. On oublie en fait la fonction de la famille impériale aussi. Il faut l'éliminer. Et là, ben, il y a les services britanniques qui se mélangent en fait au prince Yusupov, qui est comme un peu notre témoin de cette histoire. Mais on a beaucoup de témoignages un peu contradictoires aussi, mais ça reste. C'est quand même mieux documenté que d'autres histoires. Mais on s'est dit, bon, la meilleure façon de se débarrasser de lui, sans que ce soit trop évident, ce serait tout simplement de l'empoisonner. Fait que, t'sais, ils vont l'inviter à souper.
Et là, on est en quelle année? On est au début
du 20e siècle. En 1905, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, je pense que je suis correcte. On l'invite à souper. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut... On est rendu en 1905. Les poisons, là, on commence à les connaître. On connaît la chimie, on connaît beaucoup de choses. Mais on sait que le potassium de cyanure... Ah, le cyanure, on n'en a pas trop parlé, mais tu sais, on commence à mieux le comprendre, ce poison-là aussi. Ça pourrait faire la job. Tu sais, s'il souffre un peu, parce que le cyanure ferait souffrir un petit peu plus que l'arsenic, ce serait pas grave. Parce que c'est un trou de cul, c'est comme ça qu'on le voit. Fait que là, on décide de mettre de dissoudre des cristaux de cyanure, de potassium de cyanure dans un gâteau au chocolat et dans son verre de vin. Fait que, tu sais, mettons qu'il ne boit pas son vin ou qu'il touche un ou l'autre, il devrait tomber sur le dos. Là. Et là, ce qui est un peu surpris, c'est que ça n'a pas marché. Et sur n'importe quelle personne, si tu bois du vin avec du cyanure plus un gâteau, je m'excuse, mais c'est pas long que t'es à terre, puis c'est fini.
Mais Rasputin, il a bu son vin, il a mangé son gâteau.
Il a mangé son gâteau, puis il a continué à jaser comme si de rien n'était. Et c'est là où, encore aujourd'hui, il y a toujours un petit peu... Ça aussi, c'est bon pour le cinéma. Il s'est-tu immunisé contre ça? Parce que tu peux... tu penses à The Princess Bride?
Oh oui! J'ai pas aimé ce film-là!
Mais voilà! Il s'est immunisé contre ça en prenant à petite dose pour que le corps s'habitue. Fait que, il a toujours eu une espèce de doute à savoir, il a-t-il été assez prévoyant pour lentement mais sûrement se préparer et s'habituer à ça pour ne pas mourir sans le savoir
mais juste par un empoisonnement. Imagine la face des gens autour de la table. Il liche ses doigts, il vient de manger son gâteau, cale son verre de vin.
Debout.
Tout le monde est comme ouh ouh, les regards qui devaient se lancer autour de la table, ils devaient paniquer totalement, se dire que cet homme-là est invincible, parce que sa mort a été vraiment longue. Finalement, il a pas été empoisonné.
Ben oui, mais... parce que là, ça marche pas. Mais là, il est supposé mourir ce soir-là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Il tire dessus.
Mais il est pas mort.
À plus d'une reprise. Non, ils ont tiré dessus à plus d'une reprise. Mais tu sais, c'est ça, les témoignages sont un peu contradictoires, mais il en est pas mort. Fait que là, ils l'ont jeté dans une rivière glacée. Ils se sont dit, là, il est quand même assez magané, là, tu sais, il va couler puis il va se noyer. Fait que là, ils le jettent dans la rivière glacée, ils retrouvent le corps, ils pratiquent une autopsie, puis ils se rendent compte que quand il avait été jeté dans la rivière et que ensuite ils ont amené le corps pour l'autopsie, il était probablement encore vivant au début parce qu'il se serait libéré un bras du drap dans lequel il était enveloppé avant de geler. Fait que, tu sais, il y a vraiment tout Il y a d'autres témoignages un petit peu contradictoires, mais il est comme pas tuable, finalement, là, t'sais. Fait que ça va lui donner une réputation d'immortel puis de sorcier. Et là, on entre dans un autre univers. Mais il y a beaucoup de suspicions à l'idée qu'il avait peut-être prévu qu'en se mêlant autant de la politique puis en se tenant aussi proche du pouvoir, on allait vouloir l'éliminer et qu'il allait être empoisonné. C'est peut-être immunisé contre le cyanure. C'est une possibilité.
Ou peut-être aussi que c'était un vrai sorcier puis qu'il était juste capable de retenir le cyanure dans son sang. Hey, on le saura jamais. Tant qu'il n'y aura pas plus d'archives, on le saura jamais.
Alors, j'ai réécouté The Princess Bride. Vous allez voir.
Mais là, je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout. Ben, de plusieurs. On aurait pu parler d'empoisonnement, d'empoisonneur, puis de cas isolés pendant vraiment.
Oui. Mais on a été chercher, je pense, les plus intéressants dans cette histoire-là, là, quand même.
Vraiment. Fait que Chuck, j'aimerais beaucoup que tu nous mettes la chanson Ra Ra Rasputin pour qu'on fasse notre petite transition vers la minute d'histoire sexy. On est maintenant rendu à la minute d'histoire sexy, encore une fois présentée par Eros et compagnie. On vous rappelle que si vous allez sur leur site avec le code promo Histoire15, vous allez avoir un magnifique rabais. Et là, on a déjà parlé de Louis XIV, mais on va reparler de Louis XIV. T'as mentionné qu'il y avait eu beaucoup de maîtresses, mais intéressons-nous à celle qui l'a initié au plaisir charnel.
Oui, parce que bon, c'est une bête de sexe, Louis XIV, on va se le dire. Il va aimer les femmes pendant très, très longtemps. Et ça commence assez tôt, cette histoire-là. C'est pas... c'est assez classique. On le faisait aussi à l'époque romaine, quand on a parlé des lupanards, des bordels, de s'assurer que les hommes savent comment faire. Donc, souvent, tu sais, je veux dire, ça peut être une prostituée ou autre qui va enseigner aux jeunes adolescents quoi faire avec leur entrejambe et comment se comporter et tout ça. Et c'est un peu ce qui arrive à Louis XIV aussi. On va essayer de l'initier au plaisir de l'amour pour qu'il soit un bon amant et qu'il se reproduise. Hein? On ne veut pas ce qui arrivera à Louis XVI plus tard. Ça va être beaucoup plus compliqué. Mais Louis XIV a genre 13 ans. Tu sais, c'est quand même, il est jeune.
C'est jeune.
Surtout à nos yeux d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, pense à tes enfants, le 13 ans, ça vient vite.
Non, jamais.
Donc, il a 13 ans et elle ne voulait pas, tu sais, Anne d'Autriche ayant été avec un Louis XIII homosexuel, tu sais, qu'il ne l'a vraiment pas bien traité, elle voulait s'assurer que Louis XIV soit un roi en bonne et due forme et que l'attente pour avoir un héritier ne soit pas ce qu'eux autres ont vécu. Ça a été un drame, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Louis Dieu donné, hein, tu sais, je dis « Ouh, Dieu nous a enfin donné un fils! » Elle veut être certaine qu'il ne soit pas impuissant puis qu'il sache quoi faire au lit, qu'il donne des héritiers, et donc il a 13 ans et elle va le pousser dans les bras d'une prostituée d'expérience qui est habituée de faire ce genre de dossier. Elle s'appelle Catherine Henriette Bellier. J'espère le dire comme il faut, mais on la connaît surtout comme étant la borgnesse parce qu'elle était borgne, elle avait comme un œil de pirate là, pour cacher son œil, mais elle a genre 38 ou 39 ans, là, quand Louis XIV en a 13. C'est une professionnelle et elle va s'occuper, et apparemment qu'elle est hideuse, apparemment qu'elle est vraiment très laide, et le but de choisir une femme aussi laide, c'est qu'il s'attache pas. Qui tombe pas amoureux d'elle ou quoi que ce soit, mais elle va lui montrer ce qu'il doit faire et comment satisfaire toutes les maîtresses qu'il va avoir par la suite, parce que elle est connue partout, par toute l'élite parisienne, elle est connue par la noblesse parce qu'elle a initié pas mal de jeunes nobles aux actes sexuels, et Louis XIV va tellement triper sur ce qu'elle va lui enseigner, qu'il va devenir le petit cochon lubrique qu'il va être par la suite.
J'aime que tu qualifies Louis XIV de petit cochon lubrique.
Ça lui va comme un gars.
Oh my God, la borgnesse. C'est comme pas vendeur comme nom, je trouve.
La vie de Louis XIV, à chaque fois que tu tombes là-dedans, il y a toujours plein d'affaires pas possibles.
Il y a toujours un nouveau volet que je savais pas ça, que Louis XIV.
Il y a eu une longue vie!
Oui, c'est vrai. C'est
bien vrai. Documenté à une époque, écoute, où il y avait tant de choses. Fait que voilà.
Ben voilà.
Ça était un spectacle.
Evelyne, merci beaucoup de nous avoir partagé ton savoir encore une fois.
Oh, mon grand plaisir. Mais là, ici, t'as beaucoup collaboré. Ton affaire des poisons, vraiment.
Ben, pas pire.
Bonne mémoire, enfin. Bonne mémoire.
Enfin, mes connaissances sur les poisons me servent.
Attention à ton conjoint, là. Tu viens de dire ça sur un balado.
Non, il est safe. Les champignons, ça m'écœure même à les toucher. Fait que J'en cuisine même pas. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!
Au revoir!